On revient à présent sur la résolution de l'ONU qui demande un cessez-le-feu immédiat et surtout sur ce qui constitue la surprise du jour, même le coup de théâtre de la journée, c'est que Joe Biden n'a pas utilisé son droit de veto pour empêcher cette résolution. Donc ça veut dire que officiellement l'ONU, autant dire le Concert des Nations, demande un cessez-le-feu immédiat, même si il parle aussi de la libération des otages. Ça met les Israéliens dans une position qui est difficile à double titre. La première, c'est que donc voilà, l'ONU, qui est, quoi qu'on en dise, et les Israéliens ne portent pas l'ONU dans leur cœur, mais quoi qu'on en dise, est le représentant des nations à travers le monde, demande un cessez-le-feu immédiat, ce que le tribunal de La Haye n'avait pas fait. Pour en parler, nous sommes avec Brett Klein, qui est journaliste américain. Bonsoir Brett.
Bonsoir Bernard.
Et nous sommes, vous êtes à Paris Brett, et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Richard Darmon qui lui est à Jérusalem. Richard, bonsoir.
Bonsoir et salam.
Et d'ailleurs merci d'être avec nous pour parler de ces choses très importantes. Vous êtes journaliste, vous avez notamment créé le Jérusalem Post en français. Mais je vous dis merci parce que c'est fête en ce moment à Jérusalem. C'est Shoshan Purim, tout le monde...
Oui, on vient à peine de terminer le festin de Purim.
Ouais. Le festin de Purim. Bon, mais alors avec des mauvaises nouvelles au milieu du festin, et dites-nous Richard, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle si il y a aussi une demande pour la libération des otages? Pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou l'a pris tellement mal qu'il a dit ok, il n'y a plus de délégation, il n'y a plus d'Israéliens qui partent à Washington? C'est bien simple, enfin il marque vraiment son désaccord.
Écoutez, pour aller au vif du sujet, c'est la première fois depuis de longues années que les Américains n'appliquent pas leur veto dans une résolution très anti-israélienne, qui reflète d'ailleurs une campagne qui est menée depuis maintenant quelques semaines sur la scène internationale à propos justement d'un cessez-le-feu, du fait que cette guerre doit s'arrêter, etc. On connaît les positions de l'ONU et aussi les positions adoptées par plusieurs grands pays. Et les États-Unis, on sait très bien dans quelle situation ils sont à quelques mois des élections. L'entourage de Biden a bien préparé son coup. C'est une mauvaise nouvelle, mais on se doutait que ça allait se passer, que les États-Unis allaient suspendre leur veto, n'allaient pas exercer leur veto. Mais ce qui est quand même mauvaise nouvelle, et ça c'est clair, c'est que on avait dit ces derniers jours, ces dernières heures, que les États-Unis appuieraient une résolution qui demanderait le cessez-le-feu immédiat, donc de la guerre à Gaza, en échange de la libération. Au départ, on avait dit de tous les otages, après on avait dit des otages ou de certains otages. Or, même cette condition-là, d'après ce que j'ai compris dans le peu de temps que j'ai eu pour me mettre au courant de cette résolution, il n'y a plus aujourd'hui une demande du Conseil de sécurité conditionnée à la libération des otages, ce qui est une décision extrêmement immorale. C'est comme si c'était la ligne Gutiérrez, la ligne du contexte, comme on a dit aux États-Unis dans les grandes universités, que en fait, c'est donner raison au Hamas, et c'est pas seulement vouloir faire pression sur Israël, mais c'est surtout ne pas au moins essayer de prendre une position équitable. Or, on pouvait penser, et je m'arrêterai là pour son commentaire, on pouvait penser que oui, on sait très bien dans quelle situation se trouve Biden dans la présidentielle américaine face à Trump, etc. Mais une bonne partie de ses positions internationales sont motivées par la volonté qu'il a de garder son électorat, l'électorat musulman, l'électorat de gauche aussi. Mais d'aller jusqu'à ne pas barrer la route à une résolution qui ne demande pas la libération.
Elle demande immédiat. Mais elle ne lit pas. C'est-à-dire,
voilà,
elle ne dit pas,
ça,
elle dit pas elle, c'est, elle, c'est otage contre cessez-le-feu. Alors, Brett
voilà.
Klein, qu'est-ce que
donc,
vous en pensez?
Il n'y a pas de link, c'est pas conditionné.
Il
n'y
a pas de link, comme on dit en anglais.
Voilà.
Tout à fait. Brett.
D'abord, Bernard, Richard, bonsoir. D'abord,
bonsoir.
Pour moi, ce n'est pas une question électorale aux États-Unis. Et beaucoup de gens disent ça en France, notamment à la radio. Ce que j'entends, les Américains, soi-disant, ils se sont abstenus parce que la résolution ne condamne pas l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Officiellement, c'est ça. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est le ras-le-bol avec Netanyahou. C'est vraiment ça. D'abord, j'explique cette histoire électorale. Tous ces gens qui n'ont voté, qui protestent l'histoire de Biden et le soutien qu'il a pour Israël. Jamais de la vie, ce sont des gens de centre-gauche ou de gauche, jamais de la vie ils vont voter pour Donald Trump au mois de novembre. Et même s'ils ne votent pas, ça veut dire que ça favorise Donald Trump. Donc, à mon avis, tout ça, c'était des histoires ils protestaient contre la position de Biden, mais jamais ils vont voter pour Donald Trump. Ce sont des gens de centre et de centre-gauche. Et Donald Trump est détesté par la moitié des Américains. Il faut le dire, c'est ça qui divise les Américains beaucoup plus qu'autre chose. Donc, cette histoire électorale, je n'y crois pas. Pour moi, c'est une histoire de ras-le-bol avec Netanyahou, surtout en ce qui concerne Rafah. Il faut dire que la résolution est contraignante, mais ça veut dire quoi exactement? Il n'y a pas de force militaire avec ça. Et c'est vrai que Netanyahou a annulé l'envoi de la délégation, mais Yoav Gallant, il est là, à Washington. Et moi, il me semble que déjà, Israël attaque déjà Rafah.
Oui.
Ce n'est pas l'invasion totale, non. Mais ils bombardent déjà Rafah et ils attaquent. Ils mènent une guerre contre Rafah tout en préparant l'invasion, soi-disant. Okay, voilà, c'est ce que je pense, moi, Bernard.
Alors, moi, il y a quelque chose qui m'étonne. On va donner la parole de nouveau à Richard Darmon, à Jérusalem. Ce qui m'étonne... D'abord, déjà, je ne sais pas, messieurs, je pense que vous avez dû voir tous les deux les photos de la dernière rencontre entre Blinken, le secrétaire d'État, donc disons le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie, mais il est secrétaire d'État, Anthony Blinken, avec Netanyahou. Netanyahou lui sourit, genre, ah, vous êtes venu, bon, comment on fait, quoi? Mais, je sais pas, vous avez vu, il n'y a pas un sourire. Et Blinken, vraiment, on voit qu'il est en face de quelqu'un qu'il ne peut pas voir en peinture. Hein. C'est écrit sur sa tête. Pas un sourire, il lui serre la main.
C'est vraiment ça.
Hein, si vous permettez, je voudrais revenir sans engager une polémique, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est pas une table ronde, mais je voudrais quand même apporter une nuance à ce que vous avez dit concernant les deux aspects de votre analyse, que d'une part ça ne concerne pas les électeurs et les élections israéliennes et les élections américaines. Tout est relatif parce que on sait très bien que comme le vote risque d'être très serré, en tout cas d'après les données d'aujourd'hui, et d'ailleurs entre nous soit dit, même si Trump était élu, ce serait pas forcément aussi formidable que ça pour Israël. Moi, ça fait des années que je dis que la sociologie politique américaine est en train de changer et j'ai écrit plusieurs analyses en disant que dans quelques années, donc on commence à y arriver, eh bien, il n'y aura plus un soutien aussi prononcé des États-Unis vis-à-vis d'Israël parce que la population américaine est en train de changer, qu'il y a une population, disons, avec la diversité qui pèse de son poids. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que peut-être ce n'est pas par rapport à l'électorat de gauche ou de centre-gauche, c'est par rapport à l'électorat musulman dans certains États clés comme le Michigan et d'autres encore. Et donc, c'est la position, enfin, l'envolée de Biden ou la volte-face de Biden, elle concerne aussi, en tout cas, c'est son entourage veille au grain pour qu'il soit en bonne position par rapport à ce problème qui n'est pas tant l'électorat de centre-gauche, mais l'électorat musulman dans certains États. Et puis, vous dites ras-le-bol contre Netanyahou. Là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je crois que si Biden et son administration sont contre Netanyahou, pour X raisons, plus ou moins valables ou non valables, et en fait, il réfute la position majoritaire des Israéliens, non pas seulement par rapport au scrutin serré avec 64 députés à la Knesset, mais parce que la politique menée par le gouvernement est soutenue par une écrasante majorité d'Israéliens.
Et alors, et Biden, il ne l'aime pas, il l'aime pas.
Attendez,
Ben-Gvir, et attendez, Ben-Gvir.
Non.
Brett Klein.
Non, franchement, la politique, la guerre à Gaza est soutenue par la majorité israélienne, mais Netanyahou n'a pas le même soutien que la guerre qu'il mène à Gaza.
C'est vrai.
Et en plus, moi, je pense que cette histoire de ras-le-bol est déjà en route depuis un moment. Il ne faut pas oublier, Gantz était l'invité des démocrates aux États-Unis il y a quelques semaines. C'était pas l'invité de... C'est pas Netanyahou qui est allé, c'est Gantz qui est allé. Après, il y a la déclaration de Schumer qui dit que voilà, il faut avoir les élections en Israël. Et après, c'est Netanyahou qui était l'invité des républicains et de EPAC aux États-Unis. Je crois qu'il s'est adressé au Congrès là, par Zoom ou par voilà, par téléconférence. Donc il y a cette division là, mais c'est pas par rapport à Israël. Les États-Unis de droite et de gauche soutiennent massivement Israël. Ça, il n'y a pas de doute. Le problème, ce n'est pas Israël. Le problème, c'est Netanyahou et ses ministres d'extrême droite. Ça reste ça.
Oui.
Alors, attendez, Richard, avant de vous céder la parole, de toute façon, c'est vous, là, maintenant, qui allez répondre, mais avant de céder la parole, j'en profite pour vous demander une chose. Vous trouvez... Je vais que les auditeurs comprennent. Quand Joe Biden dit « je ne les supporte plus », c'est sûr qu'il sait que c'est un pays, on va dire, évidemment souverain, mais on va même dire étranger. Un pays, c'est un autre pays, c'est Israël. Mais la guerre, c'est des moyens américains. Donc Joe Biden, il dit, faites ça, mais pas avec mes armes. D'ailleurs, il l'a dit clairement. Il a dit, si vous faites ça, vous n'utilisez pas les armes américaines. Il faut savoir que c'est comme l'Ukraine, mais avec des proportions qui sont différentes. Israël ne peut pas faire la guerre sans les armements américains. Il ne peut pas. Je ne parle même pas de dôme de fer, qui maintenant, tout le monde croit que c'est israélien. Dôme de fer, c'est majoritairement américain. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle de ça. Il faut des munitions. Il faut mettre des balles dans les fusils, c'est les Américains qui payent. Donc, Richard, avant de vous céder la parole, vous ne trouvez pas que c'est un peu osé de la part de Netanyahou de dire, si tu ne mets pas ton droit de veto, j'envoie pas mes délégués en Amérique. Mais c'est toi, monsieur Netanyahou, qui a besoin d'envoyer tes délégués.
Oui, écoutez, il y a un bras de fer qui prend une tournure acerbe et difficile depuis aujourd'hui et depuis quelques jours. Mais il faut quand même aussi remettre les compteurs à zéro. L'administration Biden a eu beau jeu d'épingler les extrémistes du gouvernement. Bon, ils sont là parce qu'il y a une courte majorité parlementaire. Mais la ligne dans la guerre, là, parce que effectivement, vous avez fait une précision à laquelle je souscris. La majorité du peuple israélien soutient cette guerre et la manière dont elle est menée, malgré certaines carences, etc. Et cette manière-là, elle n'est pas liée à la présence de Ben-Gvir et de Smotrich, qui d'ailleurs ne siège même pas au conseil de guerre.
Il y a sécurité qui est un petit peu plus large, et après il y a guerre.
Voilà. Et donc, c'est pas, si vous voulez, c'est là par contre, oui, c'est un argument très démagogique par rapport à la gauche et au centre-gauche américain, cette manière de vouloir ostraciser le gouvernement en disant que ce sont eux qui mènent la danse, alors que c'est pas le cas. Ce qui se décide au cabinet de sécurité, au cabinet de guerre, c'est avec Gantz, avec Azaim Scott, le chef d'état-major, et ni Ben-Gvir et ni Smotrich. Dont on peut d'ailleurs penser que dans une situation de crise comme celle-là, ils n'ont pas trop leur place. Ça, c'est une question d'opinion personnelle, mais ce n'est pas, d'après moi, les arcanes de
heureusement. Heureusement, mais pardon, mais excusez-moi, ce sont des nuances qui échappent à la majorité des Américains. Hein, c'est la politique israélienne à l'intérieur d'Israël.
Vous avez raison, mais parce que les médias et surtout, je dirais, l'administration américaine a eu beau jeu de les démoniser, de leur donner une importance qu'ils n'ont pas forcément.
Attendez, quand ils font une conférence là, il y a deux mois, c'était où il y a du monde et voilà, on déclare, on va recoloniser Gaza avec des colonies juives à Gaza. Et on va mettre dehors les Palestiniens et tout ça. Et on peut dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est un peu n'importe quoi. Mais on voit qu'il y a quand même des ministres du gouvernement qui sont présents à cette conférence à Jérusalem. Ça a fait beaucoup de presse aux États-Unis.
Mais il faut quand même avoir assez d'esprit de tolérance pour comprendre que ça fait partie d'un des courants d'opinion, certes minoritaire, certes à la droite nationale du Likoud, mais ça fait partie d'un courant d'opinion qui existe en Israël. Je veux dire, on peut pas monter sur ces grandes choses. Je vais vous dire. Moi, quand j'entends un certain nombre d'analyses, je dis pas forcément la vôtre, puisqu'on n'est pas entièrement en désaccord, mais je dirais que dans cette, à la fois dans la, du point de vue de, l'administration Biden et aussi dans les commentaires médiatiques autour de la situation, moi je décèle un phénomène qu'on appelle de dissonance cognitive. C'est-à-dire que à Washington, à la Maison Blanche et aux États-Unis, on voit souvent les réalités non comme elles sont, mais comme on voudrait qu'elles soient. Et c'est le cas aussi d'un certain nombre d'Israéliens et pas seulement à l'étranger.
Alors, je suis pas sûr, Richard. Franchement, moi je suis pas sûr. Je pense que, d'abord déjà, je pense que vraiment, Biden a le haut-le-cœur de ce qui se passe à Gaza. Il en a marre. Je pense qu'il ne veut absolument pas se faire tirer la manche pour repartir encore à déplacer 1 300 000 personnes. Parce que Rafah, c'est 1 300 000 personnes.
Il veut pas. Énorme.
Troisièmement, Joe Biden, il en veut à mort à Netanyahou sur le fait qu'il est pris en tenaille au sein de son propre parti. Il a ses propres élections, Netanyahou. Continue, il lui dit non, je veux pas, il continue et tout. Moi, je crois pas, je pense que vous êtes, on est, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est grave. C'est qu'on est aujourd'hui face à vraiment deux personnes qui sont aux commandes de deux pays très importants, qui mènent la guerre et qui peuvent plus se voir en peinture. Mais je crois ça, moi.
Moi, je pense que vous avez raison, Bernard, et c'est aussi que Netanyahou, il a le soutien massif des républicains et de EPAC aux États-Unis, et pas de démocrates. Et en même temps, il voit Rafah, Biden, et il dit, et comme vous avez dit, qu'est-ce qu'on va faire avec 1 million de Palestiniens qui sont là dans des tentes à côté? Pour le moment, on n'a pas vu de plan d'évacuation ou de sauvetage, si on veut. Et je sais qu'en Israël, le sort des Palestiniens est moins ça presse moins, ça n'occupe beaucoup moins le cœur des Israéliens que le reste du monde. Et c'est un peu le point qui divise un peu Israël avec le reste du monde. Et je dis ça parce que j'ai parlé avec beaucoup d'amis et la famille et tout en Israël. Et voilà, ils ne pensent pas aux Palestiniens. Mais le reste du monde, les Américains, ils pensent aux Israéliens et ils pensent aux Palestiniens en même temps.
Alors, il reste 2 minutes, pardon, excusez-moi.
On pourrait s'interroger sur les raisons un peu compassionnelles, mal placées, qui font qu'une partie de l'opinion internationale, et y compris aux États-Unis, se soucie, je dirais, de manière un peu systématique du sort des Palestiniens et moins du sort des Israéliens, d'autant que tout l'établissement sécuritaire et pas du tout des politiques, mais tous les experts ont bien expliqué que cette guerre de Gaza ne pourrait se terminer par l'élimination du Hamas que si Israël rentre à Rafia, comme on dit chez nous. Et donc, et il est vrai qu'il faut un plan, peut-être que les choses vont se faire par la force des choses, mais je ne crois pas que c'est une question de sensibilité au sort des Palestiniens, c'est une question aussi de cette guerre, comme je l'ai dit lors des premiers directs qu'on a eus il y a maintenant plusieurs mois, Bernard, c'est une guerre existentielle pour Israël, c'est la seconde guerre d'indépendance pour Israël, et il ne peut pas se permettre de la perdre.
Voilà, ah oui. Écoutez, ce sera à moins que Brett veuille dire un mot de la fin. Si
moi, je dirais juste, Bernard, que Biden, c'est le meilleur ami d'Israël, vraiment.
Voilà, on pourrait relancer. On pourrait relancer le débat comme ça, ouais.
Mais avec Netanyahou, ça cloche, et c'est le clash non seulement avec Biden, mais avec presque tous les dirigeants politiques du monde. Il a un problème. Et il faut trouver une solution à ça, parce que c'est un problème existentiel pour Israël. Je suis d'accord. Oui.
Ben, je crois que dans les temps qui courent, c'est plutôt la solitude d'Israël, la solitude qui est pas liée forcément à tel ou tel profil de ses dirigeants. Je pense que c'est un problème de fond beaucoup plus culturel, du postmodernisme et de la manière dont les idées de le palestinisme s'est emparé, un palestinisme d'ailleurs complètement inculte, qui ne n'est même pas
ouais. On peut pas
débattre.
Moi, je vous invite tous les deux à revenir la semaine prochaine.
Mais
on
peut
pas. Avec plaisir, mais on ne peut pas maintenant lancer sur le palestinisme. Merci à Brett Klein, merci à Richard Darmon qui lui est à Jérusalem. Bonsoir à tous les deux, messieurs.